Chers amis, nous ouvrons la Bible, parole de Dieu, pour parler de l'homme. Il n'y a pas de meilleure référence que Dieu, car Dieu en est le Créateur et le Sauveur. Pour parler du corps et de la souffrance, j'avais 1000 textes à vous proposer, mais vous n'avez pas beaucoup de minutes à m'accorder. Donc je fais ce choix dans 2 Corinthiens. C'est le Nouveau Testament, une lettre des premières églises, 2 Corinthiens au chapitre 4. Mais la Bible est faite aussi pour être écoutée, c'est écrit aussi. Donc si vous n'avez pas la Bible, vous écoutez, mais nous vous en proposons bien sûr à la sortie si vous le voulez. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus par l'amour du Christ, et non pas nus, sans lui. Car tandis que nous sommes dans cette tente, vous comprenez que c'est notre corps, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie et celui qui nous a formés pour cela c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Parlons du corps, chef-d'œuvre de Dieu hors du commun. Rencontre qui vient d'une rencontre de deux corps, une rencontre d'amour qui vient de Dieu, d'une valeur inestimable par sa destinée, par son origine, par tout ce qu'il sera, par ce qu'il porte comme message. C'est un lieu de beauté et de détresse. C'est un lieu de haine et de violence, de racisme, d'exclusion, de vie et de mort, de joie et de douleur. Le corps humain, plus que tout autre objet ou chose sur la terre, est la cible de toutes les violences du monde. Et c'est le chef-d'œuvre de Dieu dans l'humanité, dans tout ce qu'il a fait. C'est son chef-d'œuvre. Parlons du corps, mais avec les mots de la Bible. Nous en resterons là et nous n'irons pas très loin parce que vous vous rendez bien compte que parler du corps, ça pourrait nous demander beaucoup de semaines et de mois. Oui, avec les mots de la Bible, parce que nous avons hérité de certaines façons de parler, entre autres qui nous viennent des Grecs, pas des Grecs d'aujourd'hui, on ne va pas encore les charger. Ils ont déjà assez de problèmes comme cela, mais des Grecs d'il y a 2500 ans, et on a gardé leur façon de parler, qui n'est pas très juste, et nous disons, j'ai un corps, j'ai une âme. Donc il y a moi, et puis j'ai un corps, j'ai une âme. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien là. J'ai, comme une possession. J'ai un chat, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un corps. sommes-nous possesseurs de notre corps ? La Bible dit « la terre et tout ce qui l'habite appartiennent à Dieu ». Le Seigneur reste le possesseur de toutes choses. En disant « j'ai un corps, j'ai une âme », nous séparons le corps et l'âme. Un corps est dedans, je ne sais pas où, il y a une âme. Comme si notre âme était à l'intérieur d'un fût, d'une boîte, un peu à l'étroit. Et certains même disent que le corps finit par être gênant. Des absurdités, parce qu'on a hérité d'une façon de parler qui n'est pas biblique, qui n'est pas juste. Certains disent que le corps n'est pas le plus important, négligeable. Et certains même se donnent certaines souffrances dans le corps pour avoir une âme d'autant plus belle. Nous arrivons à des aberrations. L'être humain se manifeste à chaque fois qu'il fait quelque chose par son corps, son âme et son esprit. L'être humain, c'est un tout. Du ventre de sa mère jusqu'à la fin. Je n'ai pas trouvé d'autre mot que fin, je n'aime pas le mot fin. C'est le mot que je n'aimais pas quand j'allais au cinéma, c'est le mot fin, à la fin. Mais je n'ai pas encore d'autre mot à vous dire que celui-là. C'est pourquoi dans tous les soins palliatifs et dans toutes les démarches auprès des malades et des mourants, on a bien remis les choses en place. Il faut accompagner la vie dans l'être humain, dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Pas seulement le corps et pas seulement l'âme. L'homme ne se réduit pas à des organes qui fonctionnent. Comme disait une brave dame, une brave maman, qui dit « je ne comprends pas mon fils, il a quitté la maison, pourtant ici il avait de quoi manger, il avait tout pour être heureux. » Mais comme si la vie se réduisait à manger. Il y a des choses autres dans la vie. Nous ne sommes pas qu'un corps non plus. Donc l'être humain est un en deux, même en trois. L'être humain est donc une trinité. On m'a souvent demandé d'expliquer la trinité, ce que je refuse parce que je ne saurais le faire. Mais peut-être que nous sommes nous-mêmes la plus belle image de la trinité parce qu'on ne sait pas comment séparer le corps, l'âme, l'esprit. Et nous sommes trois, dit la Bible, corps, âme, esprit. Dans le livre de la Genèse, au commencement de la Bible, Dieu prend la terre et il façonne un être humain dans lequel il va mettre un souffle de vie qui vient de lui, un esprit qui vient de lui, ainsi est l'homme. J'ai pensé au souffleur de verre, avec sa grande canne, qui souffle dans son verre pour donner une forme, une forme au verre liquide. Donc, mon corps, c'est moi. Je suis corps, je suis âme, je suis esprit. C'est ainsi que je ressemble à Dieu. C'est ainsi que Dieu m'a créé pour toujours et la mort ne changera rien. La mort ne gardera rien de moi. Nous connaîtrons cette trinité dans laquelle Dieu nous a fait, corps, âme, esprit, pour toujours. Ça vous rassure et c'est beau ? Le corps, pas une espèce animale entre toutes les autres, pas une espèce qui a évolué différemment, pas la transformation d'un animal. On dit que nous ne sommes pas très loin du rat, pas très loin du phoque, pas très loin de... Oui, forcément, nous venons de la même terre, mais il y a quand même des différences, non ? Il ne faut pas se tromper quand même. La création de l'homme n'est pas comme celle des animaux. Pour l'être humain, Dieu n'a pas seulement parlé, il a fait, il a agi, il a pensé en lui-même, il a donné un souffle, il a pris la terre, il a donné une parole. Et l'être humain a été créé après les animaux. Sur la terre, il n'y avait que des animaux et des plantes, et l'homme est arrivé pour mettre de l'ordre, enfin, ou du désordre, je ne sais pas. Je vois l'incarnation de Jésus, sa naissance d'une femme avec un corps humain montre la dignité du corps humain. Jésus n'est pas venu comme un être transparent, une boule lumineuse, avec des ailes. Il est venu dans un corps humain. Donc ça nous montre la dignité de ce que Dieu a fait. Il y a dans la Bible deux images pour parler du corps humain. L'image de la poterie, la création de l'homme dans la poterie. Nous portons ce trésor, dit Paul dans les premières églises, nous portons ce trésor dans des vases d'argile, nos corps, avec un dehors et un dedans. Un vase, il y a un dehors et un dedans. Un dedans dans notre corps où l'homme peut vivre, où l'homme peut faire le bien et le mal, où nous pouvons, où Dieu peut demeurer, où les autres aussi ont une place. Comme une poterie, fragile. Job disait, tes mains m'ont formé, tes mains m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et Job s'indigne parce qu'il est très mal, il a perdu sa famille, il a perdu sa santé, il a perdu ses biens, et il dit, et tu me détruirais, voulant dire, si tu m'as créé, tu ne peux pas me décréer. Souviens-toi, dit Job à Dieu, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu me réduire de nouveau à la poussière ? C'est-à-dire me faire prendre le chemin inverse pour que je redevienne rien ? L'homme ne sera jamais rien. Il est lancé sur un trajet qui va vers la rencontre avec Dieu. Donc l'être humain, je le compare, la Bible le compare à un vase, une poterie. Et aussi à du tissage, je vais même dire de la broderie. Il y a un psaume, le psaume 139, qui dit « J'ai été fait dans un lieu secret, j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre. » C'est des expressions qui parlent d'elles-mêmes. Mais d'autres traduisent « J'ai été brodé dans les profondeurs de la terre. » Vous êtes, mesdames, messieurs, une broderie, broderie de Dieu. Paul, il parle dans l'Épître aux Corinthiens que nous avons lu d'une tente, une tente de camping pour les bédouins, les bergers. Nous gémissons dans cette tente, parlant du corps. Paul était fabricant de tentes, donc il sait de quoi il parle quand même. Il était apôtre et fabricant de tentes pour subvenir à ses besoins. Donc il connaissait l'usure de la tente, la fragilité de la tente. Et que parfois, les dames ne seront pas contre ce que je vais dire, eh bien, sans attendre les soldes, il faut changer de tente. Et voilà. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir un autre domicile. Il compare le corps humain à une toile, un tissage. Dieu ne refait pas chaque être humain comme Adam. Je veux dire, comme il a fait Adam. En allant chercher dans la vilaine un peu de boue à chaque fois, vous voyez un peu le travail, en allant dans la poussière de la terre pour refaire à chaque fois un être humain. Car si Dieu faisait cela, il pourrait le faire. Mais où serait notre lien, notre fraternité? On dirait, moi je ne suis pas comme vous, parce que moi je viens de la poussière de béton, et vous venez de la poussière de Cesson-Sévigné. Donc on n'est pas du tout semblables, et on ne serait jamais, jamais d'accord. Chacun dirait, moi j'étais fait ici, moi j'étais fait là. Dieu ne refait pas le geste initial, mais Dieu préside à la formation de l'être humain dans le ventre de la mère. David disait dans les psaumes, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Ça, on ne le savait pas. Quand le fœtus, l'embryon était là, il s'appuyait sur le Seigneur. Je m'appuyais sur toi. Notre corps, donné par nos parents, donné par un acte d'amour, a une origine en Dieu. Dieu disait à Jérémie le prophète, avant que je t'ai formé. Dieu sait bien qu'il y a tout un processus, est-ce qu'il faut dire naturel ou surnaturel ? Dans le corps de la femme et de l'homme pour la création de l'être humain, mais il dit, je t'ai formé, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant, pas seulement quand tu étais un embryon, mais avant je te connaissais. Donc Dieu dépasse le temps de la naissance, le temps de la mort, il est au-delà de tout. La Bible met en valeur le corps humain. Toutefois, le corps humain n'est pas sacré. Seul Dieu est sacré. Seul Dieu est digne d'être adoré. Sacré, ça voudrait dire on ne peut pas y toucher, c'est un Dieu, quoi. Nous avons un excès aujourd'hui sur le corps. Aujourd'hui, il y a un excès d'adoration, de mise en valeur du corps, qui doit être, je le rappelle, jeune, beau, riche, en bonne santé, intérêt, etc., etc. Ça, c'est une sacralisation qui n'est pas du tout biblique. Le corps humain n'est pas non plus un objet que l'on peut marchander. Il est parlé dans l'Apocalypse d'un marchandage de corps et même d'âme, des cargaisons de corps et d'âme qui ne nous choquent plus aujourd'hui parce que aujourd'hui il y a tout un trafic extraordinaire dans le corps humain partout. Donc il n'est pas marchandable, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le détruire, on n'a pas le droit de le... On peut peut-être, bien sûr, mais... On n'a pas le droit de le briser, de le blesser, de le casser. Le corps, ce n'est pas un objet. C'est plutôt un sujet. Mon corps, c'est moi. Je suis un corps. Ma personnalité, c'est un corps avec une âme et un esprit. Et Dieu entre en relation avec mon corps. Il ne s'adresse pas à mon esprit en disant « Ton corps, je ne veux pas le voir, ça ne m'intéresse pas du tout. » C'est une quantité négligeable. Moi, je ne veux que ton cœur, ton esprit s'adresse à mon corps. Il me parle, j'entends. Il me touche, il a touché les malades, il guérit, il a nourri des foules, il nous soutient, il nous ressuscitera. Le Samaritain qui s'arrête sur le blessé du chemin, il met de l'huile, il met du vin, il le prend dans ses bras, il le met sur sa monture, il le mène à l'hôtellerie, il y a des gestes avec le corps. C'est un infirmier, cet homme-là, qui s'est chargé d'un être humain en fin de vie. Le respect du corps, c'est le respect de Dieu. C'est le respect de la création de Dieu et du projet de Dieu. Même si le corps est défait par les années, défait par la souffrance, le projet de Dieu reste le même depuis notre création dans le ventre de notre mère. C'est le même projet. On ne s'arrête pas à ce que nous voyons. Il y a un projet qui dépasse la flétrissure, je pourrais dire, due à la vieillesse. Je pense à Joseph de l'Ancien Testament, cet homme qui a été vendu par ses frères, qui est arrivé en Égypte, qui est devenu un grand en Égypte. Et quand il est mort, eh bien ses frères l'ont embaumé pour le ramener dans la terre promise. Ils n'ont pas dit on va le laisser au chien, c'est pas grave, on gardera son souvenir en nous. On prend soin du corps. Jésus, quelques heures avant de mourir, une femme est entrée dans la maison où il était et elle a rosé ses pieds de parfum. Et Jésus l'a laissé faire, l'équivalent d'une année de travail, de parfum qui s'est répandu sur le corps de Jésus. Le corps, c'est aussi un lieu pour le Seigneur. Le Seigneur a choisi le corps humain pour vivre, pour habiter. Puisqu'il est dit, l'apôtre dit dans les Épîtres, « Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, Dieu, habite en vous. Vous êtes le temple de Dieu. Il y a des commandements de Dieu très importants pour notre corps. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut laisser aller comme cela au gré des vents et des temps. Il ne faut pas le laisser redevenir ou repartir en esclavage. Les commandements de Dieu ont été donnés à la sortie d'Égypte avec, je pourrais résumer en trois mots, avec cette consigne, ne redevenez pas esclaves. Ne retournez pas en Égypte. parce que vous pouvez redevenir esclave même dans votre belle maison de la terre promise. Donc ne redevenez pas esclave. Donc il nous a donné des commandements pour que notre corps garde sa liberté et sa beauté selon Dieu. Et nous rendrons compte, Paul le dit dans cet épître, du bien ou du mal que nous avons fait étant dans notre corps et avec notre corps. Nous rendrons compte. Ce ne sont pas des gestes anodins. On ne peut pas dire l'essentiel, c'est la conscience. Le corps compte beaucoup. Paul dit aux premiers chrétiens, ne mettez pas vos corps au service du mal, au service du péché, pour faire le mal. Ne vous servez pas de vos corps pour pratiquer le mal, ce qui veut dire les débauches, ce qui veut dire les risques que l'on peut prendre, les drogues qui détruisent la création magnifique de Dieu, les violences. Jésus a été tenté dans son corps. Il avait faim et le diable s'est approché de lui, car le diable connaît nos faiblesses, nos besoins du corps. Que ce soit la faim, que ce soit sexuel, il connaît nos besoins. Et le diable a proposé une tentation subtile à Jésus. Nous avons des commandements pour notre corps, mais aussi pour le corps des autres. Nous devons respecter le corps des autres. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'en dirai pas beaucoup. Là, je pense que ça va de la simple pollution. Si on pollue la planète, on touche au corps des autres. Si on pollue l'atmosphère, on va détruire le corps des autres. Et puis, ça va loin. On peut parler des fosses de la Deuxième Guerre mondiale, en Ukraine, où il y avait 3000 personnes avec des bébés, des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes, tous alignés, 3000 fusillés, brûlés ensuite, etc. Le corps des autres. Ça a été l'objet du plus grand refus, de la plus grande violence dans tous les temps. Le corps, parce que c'est l'image de Dieu, parce que c'est la plus belle création, l'être humain, la création de Dieu. Donc nous rendrons compte sur nos actions de notre propre corps et sur les actions que nous avons faites par rapport au corps des autres, même si on n'a rien fait. Le mauvais riche qui tous les matins partait à son travail, en métro peut-être, à l'époque non, c'était au temps de Jésus, et qui rencontrer à sa porte le pauvre Lazare couvert d'ulcères, il n'a rien fait de mal, mais il n'a rien fait de bien. Et quand on ne fait pas le bien, on fait le mal. Et il a rendu des comptes à Dieu parce qu'il a été indifférent, négligent par rapport au corps d'un pauvre. Et nous savons quelle parole nous attend tous dans le royaume des cieux, au jugement dernier. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Certains diront, mais enfin, l'estomac, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'esprit. J'ai faim et vous m'avez donné à manger. Si nous parlons du corps, il faut aller plus loin. Il faut aller maintenant au corps du Christ. Un magnifique texte de l'évangile de Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, c'est le Christ. Et la parole s'est faite chair, nature humaine. Écoutez bien cette parole, elle s'est faite chair. Dieu n'a pas pris un corps, comme moi je prends mon manteau, ma veste, pour sortir. Il est devenu corps. C'est différent. On a pensé parfois qu'il a mis sur lui un corps comme ça, qu'il s'est débarrassé après. Il est devenu un corps, il est devenu une âme, il est devenu un esprit, avec toutes nos sensibilités, toutes nos souffrances, toutes nos limites, sauf le péché. Il est devenu semblable à nous. C'est la beauté du Christ, de Dieu, c'est l'incroyable nouvelle de Dieu. Et les pères de l'Église aimaient bien cette expression « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne fils de Dieu ». Il s'est fait homme. Et dans la Bible, il y a cette parole du Christ qui dit « Tu m'as formé un corps ». Donc il y a eu formé, ça me rappelle la création, il y a eu un acte de création dans le sein de Marie, parce que Joseph n'est pas intervenu. Il y a eu un acte de création dans le sein de Marie. Et il y a eu une naissance naturelle, ce qui veut dire que le Christ est né de Dieu et est né aussi de l'homme, de la femme, de Marie. Ainsi, il reste attaché à l'humanité. Pour toujours. Car le corps de Jésus, qu'on se le dise parce que notre foi en a besoin, n'est pas un corps provisoire, n'est pas un corps pour 33 ans avec quelques apparitions et puis c'est fini. C'est un corps éternel. Il est ressuscité et il sera un corps humain pour l'éternité, un esprit humain, une âme pour l'éternité. Il restera nature humaine dans le royaume pour les milliards et les milliards de millénaires à venir. Nous devons regarder ce que nous deviendrons. C'est l'avenir de l'homme. C'est l'avenir de la femme. Est-ce qu'il y aurait une humanité en Dieu ? On s'est posé la question. Hein. Quand on voit Dieu qui nous fait à son image, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit le Christ qui vient comme un être humain, quand on voit que le Christ ressuscite comme un être humain et sera toujours un humain, et pour la suite des temps, il sera toujours un être humain, on se dit, mais est-ce que Dieu n'a pas une certaine humanité ? C'est difficile de parler comme cela. Il nous a rejoints tellement, et nous, on va le rejoindre parce qu'on va devenir semblable au corps de Jésus. Magnifique, amen. Notre plus grande consolation. Je pense que nous étions destinés à cela. Je pense que nous n'étions pas destinés à avoir un corps qui s'use pour des milliers d'années. Vous le savez bien. Quand on voit, quand on souffle ces bougies, on se dit, ça ne va pas durer tout le temps, la bougie, non ? La bougie, j'ai dit, bien sûr. Je crois qu'on était fait dès le commencement, on était destiné à avoir un corps céleste, dès le commencement. Dès le commencement, Dieu avait prévu que la vie éternelle avec lui se ferait dans un corps céleste, mais dans un corps, pas des êtres vaporeux, nébuleux, dans un corps. C'est vrai que Paul, quand il parle du corps dans la Bible, il est parfois surprenant. Il dit « Nous sommes semés corps méprisables ». On ne méprise pas les corps. Hein. Nous sommes semés corps infirmes. Nous sommes semés corps d'humiliation. Oui, nous sommes des êtres infirmes, des êtres d'humiliation en comparaison de l'avenir du corps de gloire. À côté de ce corps de gloire, nous sommes misérables, si ce que nous avons, c'est rien. Nous ne pouvons pas mesurer ce que sera notre destinée. Quand on pense que Jésus nous a dit, avant de partir, c'est son dernier repas, la veille de mourir, le soir de sa mort, il dira, « Je boirai du vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père ». Si c'est du vin, il y a de la vigne, il y a un estomac, il y a une bouche. Je ne comprends pas tout, hein. Je ne suis pas là pour tout vous dire. Je garde les secrets. Et dans tout cela, nous avons dit en titre, pour conclure, il y a la souffrance. Le corps et la souffrance. Toute la Bible, toute la vie, toute l'histoire de l'humanité nous parle de souffrance du corps. C'est quelque chose de phénoménal. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Qui a dit cela ? Un homme de grande douleur, Job. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Nous sommes des êtres de douleur. Celle qui a, la personne qui a inauguré la douleur de l'histoire de l'humanité, vous savez qui c'est ? C'est une femme. C'est Ève. C'est la femme qui commence la douleur. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Tu enfanteras dans la douleur. Ce qui veut dire la transmission de ta vie, la transmission de ton amour, le don de toi-même se fera dans la douleur. Mais c'est vrai pour la naissance, c'est vrai pour l'accouchement, mais c'est vrai pour toute la vie. Il y a des mamans qui pleurent toute leur vie sur leur fille, sur leur fils, sur leurs petits-enfants. Il y a une douleur permanente dans la maternité. Là, tu enfanteras dans la douleur. Mais notre recul par rapport à Dieu, notre retrait a troublé l'humanité. Nous a tous troublés. Le péché, c'est-à-dire cet éloignement de Dieu, nous a troublés et nous a donné de grandes douleurs. La Bible parle que toute la création, pas seulement l'homme, mais la création, ce qui veut dire le cosmos, les animaux, tout est dans la douleur de l'enfantement. De l'enfantement. Il y a quand même un espoir dans cette douleur. On a l'impression que il y a une autre création qui est en cours de route. Il y a une autre création qui est en chemin. On souffre, mais comme la femme qui va mettre au monde un enfant. On souffre parce qu'une autre vie est en train de naître en nous, à partir de nous. Il y a des souffrances, de nos dérèglements. Si je commets des excès dans ma vie, dans ma santé, je risque d'être malade. David disait, ma force est épuisée à cause de mon péché. Mes os dépérissent. Nos erreurs troublent notre santé. Mais il y a la souffrance aussi par les autres. La Bible dit, personne n'épargne son frère. Et c'est vrai, non ? Même entre frères, les luttes de frères sont des luttes parfois terribles, tragiques. Personne n'épargne son frère. Donc il y a des souffrances dans le corps à cause des autres. Puis il y a la souffrance des innocents, la souffrance des victimes, il y a la souffrance de la contagion devant laquelle personne ne peut rien. Le psaume 24 dit que la terre est construite et posée sur des fleuves. C'est étonnant quand même. Hein ? Ce qui veut dire que la terre, elle est fragile, elle est sur un courant qui passe. On ne peut pas prendre racine, le fleuve, ça passe. Donc nous sommes posés sur la fragilité. Fragilité que je rencontre quand je vois les accidents, les maladies, etc. C'est donc la condition humaine. L'homme est né pour souffrir. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça en disant « Je vais vous créer, mes frères, mes sœurs, mes amis, pour souffrir. » C'est une constatation de Job. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Alors il faut éviter de chercher la raison. Il faut éviter de dire, mais enfin, qui a péché pour que cet homme soit aveugle ? Est-ce que ses parents ont péché ? Est-ce qu'il a péché pour être né aveugle ? Dieu n'a pas donné de réponse à la souffrance, mais il a donné une réponse par sa présence. Il n'a pas expliqué. C'est un mystère que nous ne comprendrons jamais. C'est insondable, c'est d'une profondeur. Le mal est trop profond pour nous. Mais la Bible dit, j'ai entendu, c'est Dieu qui dit cela, j'ai entendu la souffrance de mon peuple en Égypte et je suis descendu, j'ai entendu ses cris, je suis descendu pour le délivrer. Quel message de Dieu pour la souffrance, pour nos corps douloureux ? Quel message de Dieu ? Je pense que dans nos corps douloureux, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre quand nous sommes en douleur. Nous avons besoin parce que nous connaissons des limites. On ne peut pas tout faire. On a besoin d'être porté, d'être accompagné. Viens vite, ma petite fille est à l'extrémité. Cet homme de religion, cet homme chef de synagogue ne peut plus aller plus loin. Viens vite, dit-il à Jésus, ma petite fille est à l'extrémité. Et l'évangile nous montre Jésus qui s'occupe des malades. C'est le commencement de son ministère. Il guérit les corps, il s'occupe du corps, de l'âme, de l'esprit. Il dit « J'ai été envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs. » Il ne guérit pas tout le monde. Quand il fut parti, retourné au ciel, il y avait encore dans la terre d'Israël des malades, des souffrants, des boiteux, des paralytiques. Et ceux qu'il guérit restent dans une condition fragile. Ils ne deviennent pas des super-hommes, immortels, incapables de fragilité. Ils restent fragiles, ils restent mortels. Les guérisons sont les rayons de la résurrection, les premiers rayons. Mais tout est encore dans l'attente de quelque chose de 100 000 fois plus beau. Mais à ceux qui souffrent, Jésus dit, comme à ce père qui est venu troubler Jésus, déranger Jésus dans un repas, « Viens vite, ma petite fille est à l'extrémité, ne crains pas, crois seulement. » Donc une parole. Dans la souffrance, on a besoin d'une parole, d'une présence, d'un projet de Dieu que notre raison ne peut pas comprendre. Ne crains pas, crois seulement. C'est-à-dire, je prends tout en main. Crois seulement. Je m'occupe de tout. J'ai tout vu. Je sais ce qui se passe. Crois seulement. Première fois que j'ai lu l'Évangile, j'ai été surpris de voir tous les récits de guérison. J'avais l'impression qu'ils se répétaient. Et j'ai vu que Jésus touchait les yeux des gens avec de la boue. Il mettait ses doigts dans les oreilles, il touchait la langue, il touchait le mort, il prenait la main. Il lavait les pieds des disciples, il fait corps, il s'investit, il donne de son corps, il donne de sa vie, de son amour, il fait corps avec nous. Et quand il guérit quelqu'un, il ne fait pas de grands discours, il ne dit que quelques mots. Parfois, il dit simplement depuis combien de temps ça lui arrive, c'est tout, parce qu'il veut mesurer, il veut nous faire mesurer le poids de la souffrance d'un père qui, depuis longtemps, voit son enfant se jeter dans le feu et dans l'eau. On ne peut pas calculer cette souffrance. Donc, il dit très peu de choses. Crois-tu seul? Crois-tu? Que veux-tu que je fasse? Quelques mots seulement. Et là, il agit, il touche le corps. Mais parfois, la souffrance demeure. Elle reste, malgré la foi, malgré les prières, malgré les promesses que Dieu nous fait. Il faut tenir la main de Jésus. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, a dit Jésus. Il faut tenir sa main. Je suis avec vous tous les jours. Ça veut dire des jours faciles, des jours de mariage, des jours de joie, des jours de fête et des jours troubles où la vie se défait, se détricote, s'en va. Alors je suis avec vous dans tous les jours. Quand tout, rien ne vous tient, rien ne reste dans la main. Et dans la vallée sombre de la mort où on a l'impression qu'on se détache de la terre, que la terre se détache de nous, nous disons comme David, « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Jésus nous accompagne quand le corps est douloureux. Si nous avons part, disait Paul, aux souffrances, nous avons part à la consolation du Christ. Il y a une consolation pour ceux qui se tournent vers le Christ au travers de leurs souffrances. Il faut combattre la souffrance. Il ne faut pas en faire un sujet de gloire en disant vraiment la souffrance nous permet d'expier nos fautes, ce n'est pas un moyen de rédemption. Il faut combattre la souffrance, il faut lutter contre la souffrance. Elle n'est pas prévue par Dieu, Dieu n'a pas voulu cela. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent, il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais la souffrance aussi fait naître une qualité d'amour, parfois sans précédent. Une qualité d'écoute, un détachement des choses dérisoires, une qualité d'attachement aux choses importantes. Je n'ai pas dit aux petites choses, mais je veux dire aux choses dérisoires. On s'en détache pour aller vers les choses importantes, même petites. La souffrance ouvre nos cœurs aux choses essentielles. Nous ne recherchons pas la mort. Nous ne recherchons pas à finir avec le corps. C'est la création de Dieu qui reste entre ses mains. Puis le corps, à la fin, arrive à une fin. C'est la mort. Je dirais que quelques mots, c'est encore tout un autre, débat qu'une conférence autre pourrait aussi étudier, méditer avec vous. Le corps garde sa vocation. Ce corps que l'on va mettre en terre, ce corps sur lequel on met des souvenirs, dont on ferme les yeux, c'est toujours l'image de Dieu. Car sur la croix, il y avait là Dieu dans toute sa souffrance, défiguré par la souffrance. On se détournait de lui tant il était devenu repoussant. Et cet homme, cette femme, cet enfant parfois, qu'on va mettre en terre, garde toujours l'image de Dieu. Quand Jésus arrive dans le cimetière de Béthanie, il ne méprise pas le corps de son ami qui vient de mourir, Lazare. Il dit, bon, on va voir autre chose, passons à autre chose, regardons l'avenir. Il dit, où l'avez-vous mis? Et quand Jésus a vu le tombeau, il a pleuré sur le tombeau, devant le tombeau. Le corps ne disparaît pas avec la mort, il faut bien le dire. Il est semé, méprisable, dit Paul, périssable. Il ressuscite, impérissable. Il est semé comme un grain de blé. Mais qui va sortir de terre, un grain de blé ou autre chose? Un épi. Notre corps est un grain de blé. Et quand nous mourrons, il y aura de l'attente, un peu d'attente. Et il sortira de nous un corps différent et qui viendra pourtant de ce corps que nous avons aujourd'hui. Quand je vois le grain de blé, quand je vois l'épi, je me dis, mais où est le grain de blé? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu l'épi. Il y a donc un corps qui nous attend, le nôtre, qui va se transformer par la puissance de Dieu. Paul l'appelle demeure éternelle, ouvrage de Dieu, corps de gloire, corps glorieux, corps semblable au corps de Jésus-Christ. J'aime le dire parce que je le crois profondément, c'était le projet initial de Dieu. Après ce temps de la terre, ce temps d'épreuve, ce temps où l'on choisit par amour Dieu et non pas par contrainte, eh bien, il y a autre chose qui nous attend. Et Paul dit, nous soupirons après ce corps, nous soupirons après la délivrance, la rédemption de nos corps. Ça ne veut pas dire, on a hâte de se séparer de ce vieux corps, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais on soupire après la transformation de ce corps, la délivrance, la libération de toutes les contraintes et de toutes les limites, de toutes les souffrances qui appesantissent la vie, Nous ne sommes pas nés à moitié. Même ceux qui naissent avec un handicap ne naissent pas à moitié, même s'ils n'ont pas de bras. Ils ont un corps, une âme, un esprit. Et nous ressusciterons pas à moitié. Nous ressusciterons avec un corps, avec une âme, avec un esprit. Il ne restera rien dans la mort. Jésus dit même, pas un cheveu. Tout va passer dans la transfiguration, la transformation glorieuse par le Christ. Même tout ce que nous avons fait, le verre d'eau froide à l'un de ces petits que nous rencontrons, nous porterons l'image du Christ céleste. Je conclue en vous disant, pour le moment, dans nos corps douloureux, dans nos corps pesants parfois, dans nos corps qui perdent de leur agilité, de leur fraîcheur, de leur beauté extérieure, mais qui gagnent en transparence, portons nos regards sur le Christ ressuscité. C'est lui le modèle, c'est lui qui nous attire, c'est l'avenir de l'homme. Et quand nous le verrons, j'aime bien cette image, ce sera comme l'appareil photo. On ouvre l'appareil photo, un millième de seconde. Moi j'aime bien travailler au millième de seconde. Toc. Là c'est pas un millième de seconde, c'est trop long ce que je vous ai fait. Il n'y a pas de temps là. En un millième de seconde, je prends une photo. La photo qui touche mon appareil photo reste dedans. Et quand nous verrons le Christ, en un instant, en un clin d'œil, nous serons semblables à lui, comme si son portrait, sa résurrection, sa beauté allaient se refléter sur nous pour nous transformer. Notre corps douloureux, toutefois habité par Dieu, porté par les autres, et puis qui deviendra glorieux, c'est notre chemin vers Dieu. Nous allons vers Dieu par un corps, et Dieu est venu vers nous par un corps. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas être plus spirituel que le Seigneur. Il est venu par un corps, et nous allons vers lui par un corps dans lequel nous faisons le bien, le mal, nous choisissons le Seigneur comme sauveur, ou nous le refusons. Tout se fait dans deux corps, le corps de Jésus et notre corps. Mais, permettez cette dernière parole, quand nous arriverons dans la maison du Seigneur là-haut, probablement après une vie où nous nous sommes éreintés, nous avons souffert, nous avons pleuré, nous avons gémi, nous avons parfois désespéré, nous avons prié, nous avons ri ensemble, cette parole magnifique qui nous attend, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le Seigneur Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Encore le corps, la faim, la soif, les yeux, les larmes. On a l'impression qu'il y a encore des souffrances qui ne seront calmées, apaisées, que dans l'arrivée dans le royaume de Dieu. Il essuiera les larmes de leurs yeux quand ils arriveront. Amen. C'est ça la beauté de l'Évangile. La beauté de l'Évangile, c'est tout simplement... Nous allons vers le Seigneur et nous serons comme lui. Amen. Je prie le Seigneur avec vous, mes amis. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est vérité, parce qu'elle s'accomplit toujours, et parce qu'en nous, aujourd'hui, elle nous apporte une transformation et déjà la résurrection. Nos corps sont dans ta main. Depuis notre conception jusqu'à l'entrée dans la maison du Père, nos corps sont dans ta main. Seigneur, nous te les confions, nous te remettons notre avenir entre tes mains. Pardonne nos offenses qui nous éloignent de toi, efface nos transgressions qui nous alourdissent l'esprit, le corps et l'âme. Attire-nous à toi parce que tu es la source de vie, la lumière qui éclaire tout homme. Garde-nous, Seigneur, loin du péché qui détruit le corps et l'âme et l'esprit. Seigneur, merci d'avoir donné ton corps sur la croix. Merci d'avoir livré ce corps chemin de Dieu vers l'homme et d'avoir conduit l'homme vers toi pour qu'il soit semblable à toi. Amen.